Chers amis des cellules, bonjour. J'espère que vous tenez le coup en ce temps de confinement et que vos échanges vous aident à tenir dans la foi et à vous imprégner de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Je voulais aujourd'hui méditer avec vous l'évangile que nous entendrons dimanche prochain, qui sera un extrait de l'évangile selon saint Jean au chapitre 14, les versets 1 à 12. Un mot de contexte d'abord, c'est un extrait du discours de Jésus avec ses disciples lors du dernier repas qu'il passe avec eux avant la Passion. Et notons que ce discours nous est donné à entendre dans le temps de la résurrection, alors que le moment de l'ascension va bientôt être fêté, il n'est plus si loin de nous. Et donc il y a un double écho, puisque Jésus parle de son départ, que nous recevons, à la fois le départ à travers la Passion, et pour nous aussi le départ à travers l'ascension, puisque le mode de présence de Jésus par les apparitions cesse à partir du moment où l'ascension a lieu. Il y a donc, on pourrait dire dans les deux cas, un motif de tristesse, la tristesse de la Passion, c'est assez évident, à Jésus va leur être arraché, mais aussi pour nous, on pourrait dire la tristesse de l'ascension, parce que cette contemplation de Jésus ressuscité se rendant présent visiblement auprès de nous, eh bien ne va pas se prolonger. Nous allons devoir découvrir, vivre sa présence sous un autre mode. Ainsi, la parole de Jésus, que votre cœur ne soit pas bouleversé, vient éclairer à la fois la tristesse face à la Passion, mais aussi la tristesse que nous pouvons éprouver face à l'ascension, qui marque la fin de cette présence visible de Jésus. Au passage, vous pouvez aussi méditer l'épreuve de foi et d'abandon que cela a pu être pour la Vierge Marie, de livrer son fils, d'accepter que son fils fût livré sur la croix, de la joie de le voir ressuscité, et en même temps d'accepter qu'il lui soit d'une certaine manière à nouveau arraché ou rendu invisible, en tout cas, par le moment de l'ascension. Ayant vécu cela, la Vierge Marie peut du coup être pour nous un bon guide, un bon accompagnateur pour rentrer et accepter la contemplation de ce mystère. Un petit mot d'explication maintenant quant aux couleurs que vous pouvez voir sur le texte qui est joint à cet enseignement. J'ai mis en couleurs différentes les mots qui étaient récurrents dans le texte. Et donc vous pouvez voir autour de croire, autour des lieux, nombreuses demeures, places, auprès de moi, là où je suis, le terme de chemin, le terme de connaître, le terme de père, le terme de voir, le terme autour des œuvres, et du coup aussi les œuvres les plus grandes. Ce petit travail permet de repérer comment il y a une concentration autour de ces thèmes et du coup de savoir autour de quoi le sujet va tourner. C'est une bonne indication, en particulier dans l'évangile de saint Jean, qui est parfois difficile à suivre. Donc ça, c'est une petite chose que je vous recommande si vous voulez étudier l'écriture, d'oser prendre vos crayons de couleur pour noter les mots, les expressions qui reviennent, et puis du coup d'essayer de comprendre comment le texte peut se découper à travers ça. Un autre élément de découpage est symbolisé par les puces noires qui ont été mises au début de certains paragraphes, mais qui représentent, on pourrait dire, les personnages qui sont en lieu, de la même façon qu'on peut découper des scènes au théâtre par l'entrée et la sortie des personnages. Il y a une façon de découper le texte à partir des personnages qui interagissent avec Jésus. Mais au départ, c'est Jésus avec tous les disciples, puis c'est Jésus avec Thomas, puis c'est Jésus avec Philippe, puis c'est à nouveau Jésus avec tous les disciples. Ce petit travail graphique permet de toucher un peu du doigt la façon dont saint Jean enseigne. Et nous nous rendons compte qu'il enseigne par des mots crochets. Vous voyez, à la fin du passage avec les disciples, on introduit le mot, vous savez, le chemin, chemin. Et Thomas va rebondir justement sur ce mot chemin. Et à la fin de ce passage avec Thomas, on introduit le connaissez. Et Philippe va rebondir sur ce mot connaissez. Et puis, au terme du passage avec Philippe, Jésus va introduire le mot ses propres œuvres. Et c'est ce qui va être au cœur du développement que Jésus fait à ses disciples par la suite. Voilà un petit outil pour nous aider à comprendre le texte, à être attentif aux détails du texte pour mieux entrer dans sa profondeur. Lisons le texte maintenant. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, mais que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. » Le passage commence par un appel à la confiance. Une confiance qui doit nous permettre de surmonter la tristesse de la séparation avec Jésus, de la séparation avec le Jésus visible, parce que nous serons réunis. Il nous annonce qu'il nous réunira avec lui, que là où il est, nous serons, et que son départ n'est pas un abandon parce qu'il en aurait assez de nous, mais parce qu'il va nous préparer une place. Et il nous emmènera auprès de lui. Et il est beau peut-être de ressaisir en ce temps de Pâques que nous sommes appelés à vivre avec lui, non pas séparés de lui, mais à vivre avec lui, et pas simplement moi avec lui, mais nous avec lui. Donc notre communauté avec lui, pas tout seul. Et c'est une nouvelle qui nous est donnée, à la fois pour nous qui sommes là, mais pour ceux aussi qui ont déjà quitté cette terre. Il y a une volonté de Jésus que nous soyons rassemblés auprès de lui, avec lui, dans la maison du Père. Vous voyez, de temps en temps, il est bon de s'arrêter à nouveau pour se dire, « Seigneur, il sera bon d'être réuni avec toi dans la maison du Père. » Ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel nous prions souvent. Nous sommes souvent préoccupés par ce que nous avons à faire, par les difficultés qui nous sont tombées sur le crâne, alors qu'il y a aussi un temps dans notre vie pour nous arrêter et pour nous redire, « Seigneur, il sera bon d'être avec toi dans la maison du Père. Je me réjouis que tu nous aies préparé une place. » C'est même parfois une chose que l'on peut se dire les uns aux autres, « Ce sera bon quand nous serons rassemblés dans la maison du Père. » Que l'on peut dire parfois même en s'adressant dans la foi à quelqu'un de décédé, qu'il sera bon que nous soyons rassemblés dans la maison du Père. Il y a là une prière dans l'espérance à laquelle Jésus nous invite. Puis, dans le texte vient la question du chemin qui va nous amener à la question de Thomas. Vous savez le chemin. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce chemin? On ne sait même pas où tu vas. Thomas ne comprend pas ce que ça veut dire aller vers le Père. Et Jésus va répondre, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Nous avons ici une expression étonnante, hein, quand Jésus dit « moi, je suis le chemin ». On n'a pas l'habitude d'entendre ça. Le chemin, quand on nous en parle, on pense plutôt c'est voilà, c'est à gauche, à droite, tout droit, et puis encore à gauche ou à droite. Et là, c'est sa personne. « Je suis le chemin ». Si le chemin, c'est la personne de Jésus, alors il faut nous attacher non seulement à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait, à ce qu'il est. Et donc, nous interroger, je l'ai dit régulièrement, face aux situations de notre vie, face à la façon dont nous sommes appelés à réagir, comment ferait Jésus? Et pour répondre à cette question, nous appuyer sur comment a-t-il fait? Qu'est-ce que nous disent les évangiles sur la façon dont il a agi? Et donc, il y a une familiarité avec la parole de Dieu, avec les évangiles, qui vont nous éclairer pour découvrir comment Jésus est ce chemin qui nous mène vers le Père. Mais parfois, on peut très bien lire un évangile avec justement une question en arrière-fond. Par exemple, comment réagit face aux personnes qui veulent le mettre en difficulté? Voilà, comment réagit Jésus? Quels sont les outils, le ton, les artifices qu'il utilise face à ceux qui le mettent en difficulté? Ou bien comment Jésus se comporte face aux malades? Comment Jésus se comporte face à ceux qui lui demandent un signe? Comment Jésus se comporte face aux disciples qui lui posent des questions? Faire des lectures un peu transversales des évangiles avec une question en tête comme cela est une façon vraiment de nous approprier le texte et de nous approprier comment Jésus agissait. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est comme cela que nous arrivons à avancer en mettant nos pas dans les pas de Jésus. Et cela sera le lieu d'une grande confiance. Parce que quand bien même nous ne sommes pas encore arrivés, quand bien même la route n'est pas encore terminée, si nous sommes sur le chemin qu'est Jésus, alors nous sommes en bonne compagnie. Alors nous sommes déjà les pieds, j'allais dire, dans le salut. Je ne suis pas peut-être encore à la perfection, mais mes pieds sont déjà dans le salut. Ce n'est pas rien. Vient alors la question de voir le Père. Jésus dit, dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe intervient pour dire, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il y a comme une impression de la part de Philippe que le Père est à découvrir, mais que d'une certaine manière, peut-être même que Jésus ferait obstacle. On pourrait demander, voilà, pousse-toi un petit peu pour que je voie le Père. Montre-moi où il est et pousse-toi un petit peu que je puisse bien voir. Et Jésus a cette réponse qui est tout à fait étonnante, tout à fait imprévue d'ailleurs pour Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a deux éléments là-dedans. C'est à la fois Jésus manifeste que Philippe ne connaît pas vraiment Jésus, il n'a pas pris toute la mesure de qui est Jésus, de ce qu'est Jésus, de qu'il est le Fils du Père, le Verbe du Père, et du coup, il n'est pas arrivé à la connaissance du Père. La question de Philippe et la remarque qui est faite à Philippe, c'est une remarque qui peut nous être faite aussi à nous. Est-ce que nous avons pris la mesure de qui est Jésus? Parce que saint Paul nous le dira, Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à voir du Père nous est donné par le Fils, dans le Fils. Voir le Fils, c'est voir la manifestation du Père. Quand le Père se manifeste, c'est le Fils qui est rendu visible. Je voudrais peut-être prendre une image terrestre, pour essayer d'évoquer un petit peu cette réalité et du lien si intime entre le Père et le Fils. C'est l'image des vagues. Lorsqu'on regarde la surface de l'eau, au mouvement des vagues, on va dire qu'en connaissant aussi la direction du vent, au mouvement des vagues, on a une idée des fonds marins, parce que les fonds marins vont influencer sur le déplacement de l'eau. Et donc, parce qu'on voit tout d'un coup apparaître à tel endroit de l'écume, on sait que là, il doit y avoir des hauts fonds, ou peut-être même des récifs, parce que à tel endroit, on voit qu'il y a un tourbillon, là aussi, on sait que le sol marin doit avoir telle disposition. Et donc, l'observation, on pourrait dire, intelligente et avec sagesse, et peut-être d'une certaine manière savante, de la surface de l'eau, nous décrit ce qu'est le fond marin, parce que la surface de l'eau est en quelque sorte l'image du fond marin. Ce qu'elle est résultant de la réalité du fond marin. Eh bien, j'allais dire, si la surface de l'eau nous donne la compréhension du fond marin, eh bien on pourrait dire que, analogiquement, le Verbe incarné nous donne la révélation de qui est le Père, de l'amour du Père, de l'action du Père, de la vie que donne le Père, que nous donne le Père. Et c'est là aussi un motif de contemplation peut-être nouveau pour nous de Jésus comme manifestation du Père. Ce que fait Jésus, c'est l'expression du Père. Et donc, lorsque je vois Jésus qui redonne la vie, Jésus qui remet debout, j'ai une expression de ce Père qui donne la vie. Lorsque je vois Jésus qui pardonne les péchés, je vois l'expression de ce Père qui rend la vie, qui nous rend à notre identité, d'autant plus qu'il est celui qui est à la source de notre être. Donc celui qui peut rendre notre identité, c'est vraiment celui qui est à l'origine de notre création, celui qui nous connaît dans les moindres détails. C'est bien de lui que vient cette force de vie, cette force de recréation aussi. Lorsque nous voyons Jésus qui, par amour pour nous, donne sa vie sur la croix, nous avons la manifestation de l'amour du Père qui ne retient rien, pas même ce qu'il a de plus précieux, pour nous donner la vie, pour nous manifester son amour. Et donc, nous avons l'occasion, en contemplant la vie de Jésus, de lire justement la manifestation de l'amour du Père. C'est un bel exercice que de faire cela, qui vient enrichir notre prière dans sa dimension trinitaire. À la fin du dialogue avec Philippe est introduite la dimension des œuvres. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres, et qui va être le mot crochet avec la suite, croyez du moins cause des œuvres, et celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Nous avons autour de ces œuvres encore une dimension particulièrement belle à contempler. C'est que Jésus lui-même qui fait l'œuvre du Père nous amène à accomplir ses œuvres. Donc vous voyez, ce que nous sommes appelés à accomplir, c'est à entrer dans le même comportement que le Fils. Il fait les œuvres du Père, nous ferons les œuvres du Père. Et nous ferons ces œuvres plus grandes encore. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que, après l'ascension, par le don de l'Esprit-Saint, quand nous ferons les œuvres du Père, nous deviendrons une manifestation de l'amour du Père encore plus grande, parce que c'est dans notre faiblesse, dans notre fragilité de créature, remplie de l'Esprit-Saint et configurée au Christ, que l'on verra les œuvres du Père. Pas seulement, pas simplement dans le Verbe incarné, mais en nous, baptisés, confirmés, nourris de l'Eucharistie, eh bien, on verra se déployer les œuvres du Père. Dans la fragilité de notre existence, on verra pourtant se manifester les œuvres du Père, être révélées les œuvres du Père, être révélé l'amour du Père. Et cela est grand que, dans la nature la plus fragile, la plus lointaine de Dieu jusque dans sa matérialité, l'œuvre du Père sera manifestée. Voilà ce que Dieu nous promet, voilà ce à quoi Dieu nous invite. L'enjeu est grand. Je me souviens d'une parole du Père Guy Gilbert qui nous invitait à vivre de telle manière que, en nous voyant vivre, les autres se disent « Au vu de leurs œuvres, ce n'est pas possible que Dieu n'existe pas. » C'est exactement ça que Dieu veut faire, que, au vu de nos œuvres, on se dise « Ce n'est pas possible que Dieu n'existe pas, vu ce qu'ils font, vu comment ils vivent. » Enfin, pour que cela devienne, il y a la question de la foi. Elle était au verset 1 déjà. « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et Jésus le reprend au verset 11. « Croyez-moi, et si vous ne me croyez pas, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Et cette question de la foi est essentielle. Croire en Jésus comme le Fils du Père, comme l'envoyé du Père, comme le chemin vers le Père. Mais comprenons bien ce que signifie cette dimension de la foi. La foi, ce n'est pas seulement une connaissance. La foi, c'est une connaissance avec une adhésion, le cœur qui adhère à ce que l'on connaît. Mais la foi, c'est aussi une mise en pratique de ce que l'on connaît et auquel on adhère. Vous voyez, la foi va vivre la foi nécessite de s'appuyer sur elle, de prendre appui sur elle. Or, nous pouvons en rester parfois justement un aspect un peu théorique que nous n'osons pas mettre en pratique, nous n'osons pas nous appuyer dessus. Et je voudrais là encore employer une image qui peut nous aider à voir comment nous vivons notre foi. Vous savez, parfois on peut s'appuyer sur un mur, sur une porte ou sur le dos de quelqu'un et imaginez que la personne sur le dos de laquelle on était appuyé s'écarte. Quand on n'est pas trop penché, on retrouve son équilibre sans problème parce qu'on n'était pas vraiment en appui sur l'autre. On était légèrement en appui, mais notre appui fondamental ne dépendait pas de l'autre. Vivre la foi, c'est faire de ce qui est cru l'appui fondamental de ma vie. Et si je reprends l'image de « je suis appuyé sur le dos de l'autre », si je suis vraiment appuyé sur le dos de l'autre, s'il n'est pas là ou s'il bouge, je tombe à terre. Là, ça veut dire que j'étais vraiment appuyé dessus. Et Jésus nous invite à entrer dans la foi où notre vie est appuyée sur lui, au point que s'il n'était pas là, notre vie s'effondrerait. Eh bien, puissions-nous entrer dans cette foi à laquelle Jésus nous appelle. Demandons-lui le don de cette foi si profonde où nous appuyons toute notre vie. Parce que tel est le chemin du royaume, tel est le chemin qui nous permettra de faire ces œuvres plus grandes qui manifesteront le Père, son amour au monde. Je vous souhaite de bons échanges, que Dieu vous garde et vous bénisse.